Quand on m'a demandé de rapporter dans le cadre de ce colloque sur une séance sur les mutineries de 1917, je me suis dit, mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose de possible à dire? Est-ce que, du coup, le colloque s'appelait Obéir et désobéir avec les mutineries 1917 en perspective? Je me suis dit, mais au fond, mais est-ce que ces mutineries du 1917 n'ont pas déjà été beaucoup étudiées? Ce serait quoi cette séance, une mise en perspective, effectivement. D'autant plus que nous le savons, c'est bien vrai qu'il y a au moins trois travaux quand même qui ont beaucoup couvert le sujet, depuis le travail ancien de Pedroncini, qui a été bien sûr discuté, mais qui comprenait beaucoup d'aspects, le travail beaucoup plus récent d'un des auteurs d'ailleurs de communication aujourd'hui, Denis Roland, sur les mutineries et la grève des poilus, et celui de notre président qui a apporté un renouvellement historiographique considérable par son analyse sur la façon dont se négociait ce mouvement social des soldats citoyens dans le cadre d'une étude précise. Donc je me suis dit, mais tant a déjà été écrit, dit, etc., de façon savante sur les mutineries de 1907, je me suis dit, mais au fond, est-ce que ce sera un petit résidu d'informations complémentaires que cette séance? J'ai eu ce petit problème en me posant cette question. Et tout en sachant que l'histoire n'étant jamais achevée, fort heureusement, nous cessons sur les mêmes événements sur lesquels nous avons produit beaucoup déjà. Paradoxalement, nous ne cessons, en déplaçant le microscope, en regardant autrement le même objet, de le voir différemment, comme finalement en histoire comme dans toute science, même si les ruptures épistémologiques sont parfois plus idéologiques. Donc, je pense que nous nous trouvons là devant un ensemble de travaux qui, certes, ne peuvent pas apporter ce que nous connaissions déjà assez largement sur le déroulement des événements. Maintenant, je pense que beaucoup de choses ont été dites sur l'importance de ces mutineries, sur leur sens, difficilement à remettre en question, en tout cas immédiatement. Mais ces communications opèrent effectivement des visions, et c'est pas mon rôle de poser les questions. Je pense que donc Eric Soriano sera là pour la faire, mais qui quand même nous les font voir autrement, et c'est ce que j'essaierai de montrer dans ces communications. Alors j'ai moi aussi un peu réorganisé le paquet. Deux premières communications, sachant qu'en fait, malgré tout, c'est impossible de réorganiser entièrement, parce que les communications se renvoient quand même les unes aux autres. Deux communications sont quand même plutôt du registre encore de l'analyse des mutineries, de ce qui s'y est passé, de leur sens, etc. Deux autres communications vont plus dans le sens d'une analyse de certains acteurs, c'est-à-dire les hiérarchies, les commandements, et apportent davantage un coup d'œil de ce point de vue. Enfin, j'ai la tâche plus facile que Rémi Casals, car je n'en ai que sept. Deux communications abordent quelque chose qui est du ressort des liens entre les mutineries et l'arrière, les mutineries et Paris, notamment, bien entendu, puisque c'est quand même l'arrière le plus proche avec lequel il y a, semble-t-il, le plus d'impact et de discussion. Et enfin, il y a la communication très particulière sur laquelle je reviendrai enfin, qui est celle des sociologies, de la question des sociologies des mutins. Donc, je commence d'abord par présenter les deux communications qui abordent les mutineries en nous donnant des informations complémentaires. D'abord, celle de Denis Roland, qui, prolongeant le travail considérable qu'il avait déjà effectué, traite de la violence durant les mutineries de 1917. Il part d'un corpus où il isole 49 mutineries comme grave crise d'indiscipline. Je ne peux pas développer longuement comment il les sélectionne, qui sont vraiment les crises les plus graves, qui mettent en œuvre environ 20 000 hommes et qui déboucheront d'ailleurs sur 1000 inculpations et 27 exécutions. Il a éliminé également, dans sa définition de la violence, les cas strictement individuels, mais en s'intéressant aux cas de violence répétée, significative et importante. Et il nous propose donc trois niveaux de violence, enfin trois types de violence. Un point intéressant qui est revenu rejoint ce qui a déjà été dit ce matin dans l'attitude des officiers, qui est, lors de ces mutineries, la violence éventuelle des officiers. On pense évidemment, dans un mouvement social, d'abord à la violence des mutins, mais il a évoqué le cas de la violence des officiers, qui est, il faut bien le dire, extrêmement rare. Il y a tout de même un cas où un officier donne à des soldats l'ordre de tir à la mitrailleuse sur les mutins. Il y a d'ailleurs là, lui-même se trouve devant face à un acte de désobéissance. Les soldats refusent eux-mêmes de tirer et c'est ce commandant lui-même qui tire sur les mutins, faisant 5 morts. Cas tout à fait exceptionnel dans le cadre de ces mutineries. Alors évidemment, on en parle un peu plus longuement, mais il faut toujours penser que parfois on parle de l'exceptionnel en lui donnant trop de poids peut-être, mais en même temps l'exceptionnel prend parfois sens. C'est extrêmement délicat au niveau historique. On dit bon, mais ce n'est qu'un cas, c'est tout à fait exceptionnel sur 49. C'est vrai, mais il n'est pas moins vrai qu'un cas signifie toujours quelque chose. Il y a quelques autres cas envisagés de violence, par exemple des corrections qui sont données par des officiers à des soldats mutins, mais qui relèvent peut-être aussi de certaines continuités dans les exemples de violence verbale ou physique qui ont été évoqués déjà ce matin en dehors de la période de mutinerie. Donc cette rareté, Denis Roland l'interprète dans le fait que dans l'ensemble, les officiers de base, connaissant leurs troupes, comprenant le sens de leur mouvement, ont limité leur réaction de façon aussi à éviter de s'isoler de leurs hommes. Ensuite, il évoque la violence des soldats. Cette violence des soldats est effectivement pas fréquente, mais elle est nombreuse, mais elle n'est pas dominante. Elle est présente dans 18 cas sur 49, bon, on ne va pas faire de pourcentage, donc significativement tout de même. Donc des cas de violence assez diversifiés. Très rare cas de violence avec armes. Et généralement, lorsqu'il s'agit de cas de violence avec armes où les mutins ont vraiment fait tirer, souvent accompagné de phénomènes d'alcoolisme, ou voire des tirs aveugles, ça c'est assez rare. Par contre, les violences physiques sont plus fréquentes. Voix de fait, jets de pierre, gifles sont présentes dans un nombre assez significatif, sans compter bien sûr les violences plus complexes et souvent minimisées que seraient les violences verbales. Donc une certaine présence de la violence, j'y reviendrai un peu plus loin, mais violence qu'il faudrait inscrire dans l'histoire générale d'une violence sur la plus longue durée, des violences populaires, urbaines et rurales. Enfin, il note quelques cas de violence de soldats entre eux, lorsque des soldats refusent de participer à la mutinerie, en quelque sorte les jaunes de ces mouvements. Il y a quelques cas, mais pas très nombreux, parce que sans doute la solidarité entre le petit groupe fonctionne aussi. Donc si la violence, à conclure que la violence n'est pas marginale, puisqu'elle est présente, mais qu'elle ne se généralise jamais, qu'elle ne va jamais au-delà, très rarement au-delà de certaines limites, et qu'en quelque sorte, elle se contient. Évidemment, le fait que cette violence se contient, nous interpelle au niveau du sens de cette idée que le mouvement violent se contient. La deuxième communication que nous avons, c'est celle donc de Patrick Facon sur l'armée d'Orient, armée OAO, armée oubliée aussi, puisque eux-mêmes se considèrent comme l'armée oubliée. Fait partie de leur système identitaire profond. L'armée d'Orient, c'est l'AO au sens d'armée oubliée, qui explique beaucoup de choses dans leur façon de voir et d'agir. Alors cette armée d'Orient a connu, ce sont des choses très très intéressantes, des cas de mutinerie, et voire au-delà des cas de désertion individuelle nombreux. Alors il cite un certain nombre d'exemples. Il y a des mutineries en quelque sorte à l'arrière, au camp Zaitelik, près de Salonique, donc où là on retrouve des choses assez voisins, c'est-à-dire des permissionnaires en attente de retourner en France, on leur annonce que non, ils vont pas retourner en France, mais ils repartent au front. Hein. Donc là, immédiatement, refus en juin 1917, et violence armée significative. Il y a des violences au front, des mutineries au front, notamment le 243e régiment d'infanterie, qui, là aussi c'est pareil, au moment de monter au front à Monastir, 150 hommes qu'on renvoie là se battre, refusent le combat parce qu'ils attendent une permission depuis 35 mois. Ils seront mutins pendant 9 jours, de grève, comme on dit parfois, avec plusieurs centaines de leurs camarades. Sans, là, avec un cas de... avec un cas où tout se passe sans violence, après 9 jours, les choses rentrent dans l'ordre. Enfin, il y a un troisième lieu où peuvent se passer ces cas de mutinerie dans l'armée d'Orient, c'est à l'extrême arrière, on évoquait cette question ce matin, dans les armées australiennes ou autres. L'autre lieu de mutinerie, c'est tout simplement en France même, sur les ports ou autour, ou dans les gares voisines de la Méditerranée, où se concentrent ces troupes avant d'aller en Grèce se battre. Et là, on retrouve des choses qu'on connaît ailleurs, des soldats qui sifflent, un général, des soldats qui pillent, des soldats qui saccagent, avec des forces quand même assez, des formes qui, me semble-t-il, sont assez graves. Globalement, tout ceci tient de formes de violence qui, pour ma part, me rappellent des formes de violence qui ont été décrites dans d'autres situations que les seules violences de la guerre. Le saccage des trains, évidemment, sont des phénomènes, Emmanuel Cronier, on y reviendra, mais là, elle ne l'évoque pas directement, on avait montré comment le saccage des trains par les conscrits pouvait se produire. C'est une situation de libération de jeunes. Donc là, il y a, me semble-t-il, tout un champ de réflexion qui s'ouvre autour de ces éléments. La répression semble avoir été faible. Le cas maximum est une condamnation à 6 ans, ce qui quand même paraît je dis bien condamnation, hein, donc évidemment, ce ne paraît pas avoir été une condamnation très grave. Au niveau des interprétations de ces actions, on va retrouver des thématiques qui seront partout ailleurs, qui vont donc arriver dans toutes les communications, une double interprétation. En Macédoine et pour l'armée, les permissions, la justice dans les permissions, Sarah lui-même le reconnaît, on n'arrive pas à mettre des permissions, etc., en nombre suffisant, en régularité suffisante, juste pour tout le monde. Donc ça, et deuxième point, qui vient aussi dans l'interprétation du commandement, donc ça on va le retrouver systématiquement, il y a une cause matérielle principale, c'est cette gestion des permissions, la cause politique à côté, c'est l'influence du pacifisme anarchiste des méridionaux, cette fois-ci c'est plus les parisiens, qu'on va le retrouver dans d'autres cas, cette fois-ci c'est le pacifisme anarchiste des méridionaux qui contamine les soldats. Donc Patrick Facon signale que l'armée, dans cette analyse, ignore les effets de l'échec de l'offensive, les effets de la situation sanitaire dramatique dans laquelle se trouve l'armée d'Orient, hein, victime du paludisme et de maladies particulièrement graves, et de son sentiment de marginalité. Donc ce côté inéquité qui est présent dans l'ensemble des systèmes que nous avons étudié au niveau des mutineries ou des désobéissances, est suraccentué par le sentiment que cette armée est une armée abandonnée, oubliée de la France. Enfin, Patrick Facon évoque des aspects très intéressants sur le fait que l'armée d'Orient aurait accueilli, et a accueilli en partie, les entre guillemets, mauvais éléments, ceux qui auraient ou avaient participé aux mutineries de 1917 sur le front français. Et on en trouve effectivement. À partir de là, la mémoire révolutionnaire et communiste a joué sur un parallèle entre les mutineries de 1917, puis les mutineries de l'armée d'Orient en 1919. Donc, établissant une sorte de parallèle entre les mutineries de la mer Noire et les mutineries de 1917. C'est plus du registre de la séance de demain après-midi, par certains aspects, mais ça me semblait très intéressant de pouvoir le noter. Il y a tout un champ à partir de ces questions de la violence, de ces questions de l'action et des pratiques qui évidemment moi m'intéresse, alors d'un point de vue encore plus large, mais je ne développerai pas, de parallélisme entre ces actions conçues comme grèves de soldats et ce que moi je connais des grèves des ouvriers à l'arrière. Et je me demande par moment, mais ça je sortirai de mon champ d'intervenant et de rapporteur des communications, je me réserve si j'en ai l'occasion de développer ce que je pense de ce qu'on peut concevoir comme grève, comme une mutinerie, comme une forme de grève au front par rapport à ce qu'est une grève ou un mouvement social à l'arrière. Des questions peuvent être posées. J'en arrive au deuxième point qui est les relations les réactions aussi de la hiérarchie à ce mouvement social, ce mouvement de mutinerie. Nous avons deux communications, la communication du général Bach sur la gestion des mutineries par le haut commandement. Je lui poserai d'ailleurs une première question parce qu'il indique au début de sa communication que le haut commandement a été surpris, comme tout le monde. On dit souvent qu'on est toujours surpris par les mouvements, les grands mouvements sociaux. Et en même temps, il nous montre un service de renseignement relativement actif. Donc je me suis demandé si ce service de renseignement qui produit, en tout cas à partir, après la grève, des rapports intéressants, on peut discuter, sur les explications de les causes de cette mutinerie, qui dispose de centaines de rapports qui lui arrivent, qui a les synthèses des contrôles, du contrôle postal, qui a les rapports d'inspecteurs divers, etc., qui lui permettent de faire un rapport, on y reviendra, intéressant sur les origines des mutineries. On est un peu surpris qu'il n'ait rien vu venir. En tout cas, c'est ce qu'on a un peu l'impression. Enfin, on se demande quelle est l'efficacité d'un service de renseignement aux armées qui, certes, produit une bonne analyse, comme tous les historiens. Enfin, nous, c'est très facile, on a toujours raison, puisque on explique des événements qui ont eu lieu. Alors, hein, voilà pourquoi ça a eu lieu. On sait que ça a eu lieu. Alors, c'est très facile, la tâche de l'historien. Beaucoup plus facile que la tâche d'un commandant d'armée de ce point de vue. Là, en tout cas, hein, le rapport nous indique que la communication, qu'on n'a rien vu venir, donc ce service de renseignement, ce gros service de renseignement, hein, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dedans, hein, ne semble n'avoir pas dit attention, ça va, il y a des risques. Bon, là, je m'interroge, c'est une question qui me pose vraiment des problèmes. Alors, en gros, là, la thèse centrale du commandement devant la crise, du haut commandement, donc il fait toute une série de citations, c'est que, indiscutablement, les mutineries, donc ça commence dès le 28 mai, hein, par un certain nombre d'évocations de différents généraux, du haut état-major, d'unités importantes, les mutineries tiennent à un mécontentement, sont liées à un mécontentement matériel et moral, dont tout ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, permission, repos, insuffisant, conditions matérielles mauvaises, éventuellement les effets de la défaite, mais ceci n'est qu'un prétexte, parce que fondamentalement, le mouvement est entraîné par des meneurs pacifistes. Donc là, c'est vraiment une thèse qui revient. Il y a eu, et notamment alors avec des variantes parisiennes très, très fortes, hein, qu'il y a un mouvement occulte à Paris, qui va démoraliser les permissionnaires, le général Despéret, il y a un mouvement politique dont les meneurs sont à Paris et qui entraîne ce mouvement des mutineries. Donc ça revient très souvent, et avec des nuances intelligentes, le service du renseignement aux armées, dont j'évoquais tout à l'heure l'imprévoyance en tout cas, qui est chargé de rechercher les causes, qui est dirigé par le lieutenant-colonel Jopf, va finalement, avec beaucoup de nuances, mais quand même, va quand même grossièrement le confirmer. Donc ce service de renseignement aux armées mériterait d'ailleurs, à mon sens, vraiment des études très approfondies, et notamment on se tient compte à quel point il faudrait mieux connaître les personnels de ces services, leur sensibilité, car on voit bien comment dans tout ça il y a des enjeux politiques entre le ministre de l'Intérieur Malvy, les stratégies de Clémenceau pour arriver au pouvoir, qui se joue dans tout cet ensemble de rapports. Donc le SRA produit le 30 juin une analyse où on retrouve littéralement d'ailleurs la thèse de la grève, quasiment, puisque dans ce rapport, Il estime que la mentalité du poilu, par certains aspects, est devenue celle d'un corps du métier, que le poilu est un ouvrier-soldat, se prend d'une mentalité d'ouvrier-soldat, et que donc il agit pour ses revendications de permission, de repos, mais aussi d'injustice lorsqu'il en a le sentiment, ou d'inefficacité, comme certains ouvriers de l'armement qui dénoncent l'inefficacité de leurs patrons dans certains domaines économiques, l'inefficacité de leurs officiers. Donc cet aspect-là est avancé, mais en même temps, et je cite il y a avec ça quelque chose de plus général que ce sentiment qui est l'antimilitarisme général, le sentiment que le massacre du peuple se fait au profit de l'étranger et des capitalistes, et cette orientation est de plus en plus avancée au fur et à mesure des rapports, hein, sur le fait que les soldats sont endoctrinés, qu'ils sont influencés par les pacifistes, etc., etc. Donc on voit se fabriquer ici tout un site d'interprétation extrêmement complexe à utiliser aussi pour les historiens, parce que tous ces rapports sont évidemment à la fois des éléments d'information sur ce qui s'est passé, mais aussi des éléments de politique à l'intérieur des stratégie possible pour la conduite de la guerre et de l'État. Le dernier point qui mérite effectivement d'être évoqué, c'est qu'à partir de tout ça viennent des réponses. Les réponses sont diverses. Il y a des réponses immédiates à ces mutineries, qui sont essentiellement déplacés, fractionnés, isolés. Donc les unités de niveaux divers où se manifestent ces mutineries met en place des stratégies de déplacement, de fractionnement qui permettent d'éviter la contamination par voisinage dans le cadre d'un même régiment, d'une même division, d'une même armée. Donc il donne des exemples de ce type. Le deuxième aspect, bien sûr, ça c'est une réponse immédiate, de gestion immédiate. Le deuxième aspect, bien sûr, c'est la répression. Celui-là a été souvent étudié, donc j'y reviens moins. Le troisième aspect qui a été également souvent étudié, ce sont des mesures d'amélioration, donc qui répondent à l'ouvrier soldat dans cette négociation, des mesures d'amélioration au niveau des repos, des relèves, des permissions, etc. Et enfin, et là je pense que c'est quelque chose de très très intéressant, c'est une réponse au deuxième aspect, c'est-à-dire une réponse politique. Et cette réponse politique, elle est dans la communication. C'est-à-dire que l'armée décide de développer, et particulièrement Pétain, une politique de communication pour contrer ce qu'il pensait être cette campagne pacifiste venant de meneurs, cette mentalité antimilitariste qui est cette idée que la guerre, on ne la fait plus pour nous, qui s'est développée. Et donc Pétain produit des circulaires, des thèmes qu'on envoie aux officiers, pourquoi nous nous battons, quelle serait la catastrophe d'une paix immédiate, etc. Tout ce qui prouve qu'il prend tout de même au sérieux, effectivement, ces questions. Il y a une autre question que Pétain prend très au sérieux, sur laquelle il met une barrière très stricte, c'est sur l'idée que dans le cadre de ces négociations qui existent de fait, négociations-répression avec ces soldats ouvriers citoyens, il y a quelque chose qu'il demande de ne en aucun cas tolérer, c'est que soient élus des délégués sur le modèle russe. Et là, il dit clairement, c'est une limite qui ne peut pas, qui ne doit, on peut discuter, on peut négocier, mais il ne peut pas y avoir une forme d'hiérarchie parallèle avec des délégués qui seraient acceptables. Là, c'est une barrière nette, claire et infranchissable qu'il met. Voilà donc au niveau de la communication sur le haut commandement. Une autre communication très intéressante, puisqu'elles sont vraiment toutes très intéressantes, est celle sur la gendarmerie de Louis Panel face aux mutineries de 1917. Donc nous présente d'abord un peu ce corps relativement, on a évoqué cette question ce matin, relativement plus âgé hein, que les soldats. Vous savez que la gendarmerie est organisée en prévôté auprès des unités et qu'elle va d'abord subir, du fait de 1917, une évolution qui est intéressante. Donc cette organisation se situe à trois niveaux. Le quartier général d'une armée dispose de 80 gendarmes. Le quartier général d'un corps d'armée de 50 gendarmes à peu près, et le quartier général d'une division de 20 gendarmes. Il n'y a pas de gendarmes organisés au niveau des régiments d'unités plus inférieures. Hein. Ils sont à ces trois niveaux, en tout 5000 gendarmes aux armées, en âge de combattre, mais qui ne combattent jamais. Sont dans une double hiérarchie qui est intéressante, mais qu'on n'a pas l'occasion de développer. Ces gendarmes sont donc auprès des corps armés dans ces prévôtés qui deviennent d'ailleurs un peu le lieu du droit dans les quartiers généraux des divisions des corps d'armée et des armées. C'est eux qui recherchent à faire appliquer les règles militaires, qui arrêtent, ils ont d'ailleurs une prime, comme tout bon gendarme, pour arrestation d'insoumis ou de déserteurs. Ces effectifs, on va le voir, sont tout de même relativement éparpillés. Ce sont des petits effectifs qui n'ont pas de gros armements. Ils n'ont que des armements légers. Par exemple, les gendarmes n'ont pas de mitrailleuses, n'ont pas de grenades. Donc évidemment, par rapport aux soldats, ils ne sont pas dans exactement la même situation. Ils sont gendarmes. Pour un maintien de l'ordre qui est au début pensé plus comme individuel que collectif. Hein. Il s'agit de rattraper les pilleurs individuels, les petits groupes, mais ça ne va pas plus loin. Très vite, du fait de cette situation, et on le verra évidemment, ça renvoie aussi à certains aspects sur une autre communication des anamites, ils font figure très vite d'embusqués. Hein, comme on disait au front, le front commence au dernier gendarme. Voilà, hein, quand il n'y a plus de gendarmes, c'est là qu'on commence à se battre. Hein, donc ils sont typiquement dans la classe, cette classe si symbolique, qui est en même temps une communauté imaginaire mais bien réelle, des embusqués. Et en même temps qu'ils sont embusqués, ils sont répressifs. Donc ils ont évidemment une image dont on conçoit qu'elle ne leur soit pas très favorable, sans compter l'héritage antérieur, bien sûr. Lorsque la crise éclate, il est clair que ces gendarmes ne peuvent pas faire face, sauf à deux niveaux, qui est une sorte de peur du gendarme, entre guillemets, au sens de ce qui est la peur du gendarme, en fond, aller jusqu'à s'attaquer à un gendarme, ça fait peut-être presque plus peur à un certain moment, pour certains, comme acte symbolique de remise en cause que d'autres choses. Donc il y a peut-être ce côté symbolique qui est envisagé par Louis Panel, et aussi bien sûr, ils ont la défense des quartiers généraux, c'est-à-dire de ces trois niveaux, hein, là, c'est là qu'ils sont en nombre. Ailleurs, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ce qui a conduit progressivement d'ailleurs, mais accéléré par la crise, à une modification de l'organisation de la gendarmerie, pendant la guerre, en mai 1917 en particulier, avec l'idée de centraliser les gendarmes pour avoir des unités plus importantes et plus mobiles qui pourraient intervenir. Ils ne seraient pas là seulement pour défendre. Donc on a créé des unités mobiles de gendarmerie qui pourraient intervenir sur le front et à l'arrière aussi d'ailleurs, puisque la gendarmerie militaire est intervenue dans le cadre des grèves de l'arrière. Le dernier point qu'aborde la communication sur les gendarmes est la question de la violence contre les gendarmes. Alors, il y a bien sûr des cas, cependant, là aussi, les cas sont limités. D'ailleurs, le seul cas vraiment significatif grave d'un gendarme tué, mais c'est en septembre 1917 à Commercy, donc ce n'est pas immédiatement lié, vous voyez, au phénomène des mutineries, et plus probablement d'après l'auteur, un accident entre un gendarme, un accident violent entre un gendarme et un déserteur, et qui se termine par le fait que le gendarme est assassiné. Mais, et c'est là que c'est quelque chose de significatif, va se développer une légende ou un mythe, comme on voudra, des gendarmes pendus. Donc ça fait partie de cette flopée. Et là, on a dans ces communications, ça me permet de commencer à y arriver, toute une série d'éléments sur les rumeurs dans le cadre de ces mutineries, les rumeurs, les mythes, et quelles fonctions prennent ces rumeurs, ces mythes, dans le cadre de ces mouvements. Donc se répand une légende, puisque le seul cas vraiment concret est ce gendarme tué, mais ça n'a rien à voir, que les mutins vont, à l'occasion des événements, ou pas seulement des mutins, mais en tout cas dans des actes d'indiscipline, pendus des gendarmes. Ce fait est même tellement durable que dans un livre que j'avais lu, que j'aime beaucoup, enfin tout est relatif, du général Carré sur Pétain, paru après la Seconde Guerre mondiale, c'est très, très intéressant, sur les niveaux de mémoire successives entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, le général qui rappelle le drame de 17, entre autres par le fait que les gendarmes ont été pendus. Ça suffirait qu'on a été vraiment très loin dans l'indiscipline, dans la gravité de la mutinerie. Comme je l'ai dit, cette légende n'a aucune base, donc il s'agit bien là d'un mythe ou d'une légende. Là, j'aurais quand même quelque chose à poser, puisqu'il en cite toute une série d'ouvrages, mais qui renvoient plus à la mémoire, sur l'origine de cette légende. Il l'a fait partir à Abel Ferry le 31 mai 1917, mais je n'imagine pas vraiment qu'Abel Ferry ait marché dans la légende, donc je pense qu'il l'a évoqué, mais là j'aurais aimé un peu davantage savoir est-ce que puis il semble que ce soit la première trace qu'il ait trouvée évoquant ceci. Je ne sais pas ce qu'il l'évoque lui-même comme une légende, ou est-ce qu'il dit qu'il y croit, qu'il a eu des informations, puisqu'on a parlé de tous ces réseaux que les députés, ou les députés liés assez fortement aux combattants comme Ferry, pouvaient avoir. Est-ce que, bon, là on se demande comment, si cette légende serait partie de là, si lui l'a créée, ce qui m'étonnerait un peu, mais bon, je me trompe peut-être, ou si il l'a relayée. En tout cas, finalement, dans cette communication, c'est cet aspect qui, finalement, de création par rapport à ce groupe d'une violence imaginaire qui est au cœur d'un problème, d'une violence imaginaire contre ce groupe d'embusqués. Alors, deux communications abordent les rapports du front et de l'arrière, et des permissionnaires. Et d'abord, la première est celle d'Emmanuel Crosnier sur les permissionnaires parisiens et les mutineries. Donc elle rappelle, et ça renvoie tout à fait à ce qui a été dit, cette idée centrale que les soldats ont été contaminés par Paris lors de leur permission et que c'est une des causes essentielles de leur mutinerie. Une cause profonde finalement, plus que les aspects circonstanciels des permissions. Donc Emmanuel Crosnier rappelle d'abord qu'avant 1917, l'idée n'était pas tant celle-là, et les inquiétudes n'étaient pas tellement celles-là dans les sphères de l'État, que le contraire. C'est-à-dire que ce qui inquiétait, c'était que les soldats contaminent l'arrière. Pourquoi ? Parce que les soldats, en venant en permission, allaient contredire ce que la presse et les autorités disaient de la guerre. Et donc, la venue des soldats en permission allait surmonter la censure, et que donc on était au début beaucoup plus inquiets dans ce sens-là qu'ils allaient venir démoraliser l'arrière. En disant c'est très dur, ça se passe pas du tout comme vous croyez, c'est pas la guerre en dentelle, etc., etc. Et on s'inquiétait de ce phénomène-là, et ça Emmanuel Crosnier avait montré dans sa thèse, ce qu'on cherchait à faire, c'était du soldat permissionnaire, quelqu'un qui allait au contraire mobiliser l'arrière. Sa question était beaucoup plus posée dans ce sens-là, au moins jusqu'à 1917. Alors, l'analyse d'Emmanuel Crosnier sur la thèse de la contamination des soldats par Paris en 1917, en tout cas, elle répond assez largement par la négative avec beaucoup, beaucoup de prudence. Donc elle note un certain nombre de faits qui vont dans le sens contraire à cette thèse de la contamination. D'abord, ce que l'on connaît de la participation des permissionnaires au mouvement même de mai-juin 17 indique de très faibles liaisons. Il y en a quelques-uns, on a quelques permissionnaires présents, il y a quelques contacts qui sont établis, mais ces contacts sont toujours limités et ne semblent pas avoir une influence si grande. J'aurais un peu tendance à aller un peu dans le même sens. Moi-même, lorsque j'avais étudié les 390 arrestations à Paris, maintenant on a déjà assez critiqué ce type de source, bien sûr, sur les 390 arrestations à Paris opérées en mai-juin 1917, je n'avais relevé que 7 soldats, ce qui est quand même assez peu. Donc, c'est ce premier élément qu'elle met en avant. Le deuxième élément sur lequel elle s'appuie, c'est cette idée des incitations à désertion qui seraient venues des Parisiens ou des Parisiennes. Même peut-être plus des Parisiennes que des Parisiens, point d'interrogation. Donc, l'idée que Parisiens ou des Parisiennes incitent les permissionnaires à ne pas repartir autour des gares, dans les cafés au voisinage des gares, etc. Chose qui a bien sûr existé. Alors, son étude assez approfondie montre que finalement, d'abord, ces réseaux existaient avant 1917, ont toujours existé. Cette idée de favoriser des désertions, d'être présent, de les susciter, mais que bien souvent, il s'agissait plus d'une visée, entre guillemets, puisque le mot est toujours complexe, criminelle, que politique. Il s'agissait de gens qui étaient là, aux abords des gares. Peut-être certains étaient-ils liés aux Allemands, certains ont pu être arrêtés de cette façon, mais en tout cas il s'agissait parfois d'apaches tout simplement, qui étaient spécialistes de faux livrets, qu'on vendait à un certain prix, il y avait tout un marché, et on démarchait au voisinage des gares, les soldats, donc si tu veux pas rentrer, bah écoute, tiens, voilà, t'as, voilà les faux papiers qui te permettront de plus revenir, de plus revenir. Mais ce sans objectif politique, donc il y avait soit des personnes, soit dans le cadre de la prostitution très abondante qui régnait autour des gares, ça a été proposé. Troisième aspect qui joue dans ce même sens, c'est l'étude chronologique. La courbe même des mouvements de désertion ou d'arrestation qu'elle a établi des permissionnaires n'a aucune pointe significative, sinon celle qu'il y a beaucoup de permissionnaires, évidemment, à cette période dans Paris. Mais on ne note rien de significatif au niveau d'une courbe quantitative. Le dernier point qu'elle note, c'est qui est peut-être le plus complexe, c'est la différence dans les trains de permissionnaires entre les trains à l'aller et les trains au retour. Qui peut être peut-être un peu discuté. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'incidents au retour qu'à l'aller. De l'incident, parfois violent, parfois... Alors c'est clair, on est quand même beaucoup plus mécontent de retourner que de revenir. Voilà. Est-ce que cela est lié au travail d'agitateurs parisiens? Cela peut quand même laisser, d'autant que c'est vrai que les erreurs, les conditions matérielles ne sont pas toujours bonnes et rendent les choses complexes. En même temps, c'est vrai que dans ces trains, et là c'est une question quand même qui court aussi dans beaucoup de communications, on crie quand même souvent la paix, à bas la guerre, la paix, vive la Russie, la paix, à bas la guerre. Quel sens symbolique prend tout cela est quand même une question qui est là, qui va au-delà des questions de négociation à mon sens. Voilà, donc cette conclusion, la conclusion reste tout de même prudente, mais tend quand même à indiquer que finalement, selon Emmanuel Cronier, les permissionnaires ont été plus moteurs que touchés dans ce qui serait des discours pacifistes ou antimilitaristes. L'autre communication qui évoque, c'est la communication concernant la rumeur, là directement des anamis, de Jean-François Jagielski. Cette rumeur, qui est extrêmement intéressante, qui a été plus ou moins caché, comme il le montre. Là, l'étude des comités secrets de la Chambre devrait être... on voit bien à quel point ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes, puisque la séance même du 4 juin se déroule en pleine émeute anti-anamite à Paris. Hein, et donc, on voit le soir, à 22h, l'Assemblée reprendre, c'est le 6e comité secret, le 4 juin à 22h10, et Laval, qui est député de la circonscription, puisqu'à l'époque les fortifications étaient en banlieue, comme vous le savez, n'étaient pas encore rattachées comme en 1925 à Paris, donc est détruite, donc c'était dans la circonscription de Laval, Laval, Cachin, Pinlevé interviennent sur le fait qu'il y a des incidents graves sur les fortifications au nord-est de Paris. Oui, c'est bientôt fini. Donc, dès le 20 mai, arrive une rumeur que les anamites font la guerre aux femmes dans un des régiments parisiens. Et cette rumeur va circuler non pas surabondamment, mais être présent dans les mutineries, comme un des éléments d'inquiétude. Au niveau de la réalité, il est vrai, comme je viens de dire, que le cas qu'il y avait un bataillon indochinois installé à Paris depuis juin 1916, dans les fortifications nord-est de Paris, et qui qui avait une fonction de garde de Paris. On devait partir, mais en fait, j'étais bien là quand même pour une fonction de garde de Paris. Le 4 juin 1917, il y a un tout petit conflit entre une commerçante et un anamite qui vient acheter je ne sais plus quoi, dans une boutique au voisinage des Fortifs. Il y a un petit conflit de monnaie, de rien du tout. Il y a un passant qui arrive et qui dit « ça l'anamite, fout le camp, etc. » L'anamite revient avec des hommes, c'est très classique, mais les autres reviennent aussi. Ça tourne à une véritable émeute où on s'attaque à la casemate, c'est le soir, hein. Et il y a un tir, et contrairement à la légende qui a dit que trois femmes avaient été tuées, mais effectivement une jeune fille est tuée dans cette fusillade. Voilà, ça ne va pas au-delà, ce qui est intéressant, c'est la chronologie. Ce phénomène se passe le 4 juin, mais c'est dès le 20 mai, c'est-à-dire dès le déclenchement quasiment des mutineries, que la rumeur que les anamites s'en prennent à nos femmes est présente, à nos midinettes qui commencent un mouvement, etc., est présente. Alors, l'auteur de la communication indique que tout ça tient à toute une série d'éléments, des traits de la culture ouvrière ancienne qui s'opposent aux travailleurs étrangers, notamment aux travailleurs chinois venus pendant la période de la guerre, l'importance des rumeurs pendant les périodes de guerre, mais surtout, sans doute, à ce statut double, là encore, de l'anamite, image de l'embusqué, puisqu'ils ne sont pas au front, et de défenseur des profiteurs, qui fait que selon l'auteur, cette rumeur finalement traduit politiquement, donc là c'est l'image qu'une rumeur, traduction politique en quelque sorte, de la remise en cause de l'Union sacrée. Au fond, la rumeur est opérationnelle pour remettre en cause l'Union sacrée, pour dénoncer le gouvernement qui abandonne les femmes et ses femmes et ses enfants et le commandement. La dernière communication est finie, est donc celle de André Loise sur la sociologie des mutins. Alors, ça reprend toute une série d'aspects qui ont été évoqués ce matin, il rappelle d'abord que, au fond, c'est un objet entièrement obscur, sauf par les macro-études qui n'ont jamais été réellement faites, que celle de la composition sociale de l'armée de 14-18. On n'a aucun travaux d'ampleur et approfondi sur ça, sauf la thèse totalement non suivi depuis la déroute de l'histoire quantitative de Jules Morin sur les soldats languedociens de 1980 et quelques. Donc on a ce fil n'a jamais été suivi. Or c'est une question clé parce qu'effectivement, finalement ne prendre les soldats que comme soldats, c'est réifier la culture de guerre. Vous ne les prenez que comme soldats. Donc totalement, ils sont soldats, ce qui est vrai. Mais si vous ne les prenez que comme soldats, c'est comme toute taxinomie crée le fait. C'est comme si vous prenez les ouvriers que comme classe ouvrière, évidemment, à la sortie, vous les avez comme classe ouvrière. Je dis, je vais étudier la classe ouvrière. Puis à la fin, vous avez la classe ouvrière, vous voyez, alors, donc elle existe. Et c'est essentiel. C'est pareil, il y a une culture de prise en disant, je les prends comme soldats. Donc à la fin, il y a une culture de guerre, de combattants, etc. C'est un groupe, je le définis, puis à la fin, c'est le groupe. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire comme ça aussi, mais ça signifie qu'il faut quand même avoir une prudence épistémologique quand on travaille sur ces questions. Et derrière ça, il y a quand même toute la question clé qui a été évoquée, quand même, qu'on ne peut pas évacuer, qui est celle du citoyen, du travailleur dans le soldat. Alors, je passe sur la façon dont ils discutent de différents corpus, ceux qui avaient été donnés par Pedroncini, qui donnait un certain nombre de résultats, mais qu'il ne comparait pas avec l'ensemble de l'armée, donc il y avait là certaines limites. On peut discuter aussi des corpus, faut-il prendre les exécutés, les condamnés, les mutins, les juger, comment définir les mutins, etc. Donc là, il y a tout un débat méthodologique qui sera extrêmement intéressant à discuter, mais je ne sais pas s'il passionnerait tous les auditoires, malgré, à mon sentiment, l'extrême importance qu'a le choix. Mon sentiment à lire, c'est que chaque source, finalement, apporte quelque chose, et que il ne s'agit pas de dénier une source par rapport à une autre, mais d'à chaque fois se demander quelle source, la portée et le sens que prend chacune de ces sources. Donc lui s'est appuyé sur les jugements en 1917 de quatre divisions, et il distingue ce qu'il considère comme mutins, donc engagés vraiment dans un mouvement de réticence et de résistance à un ordre et à la guerre, et des gens qui sont des non-mutins, qui ont une action plus individuelle, mais qui sont jugés pour délinquance, des désertions individuelles, etc. Et il donne un certain nombre de conclusions de cette étude statistique sur 1800 personnes. Sur les antécédents, par exemple, judiciaires, les conclusions sont difficiles à établir, parce que, évidemment, il faudrait savoir ce qu'il ne sait pas, et il a une bonne prudence méthodologique, quel était le niveau d'antécédents judiciaires des citoyens français. Donc évidemment, on peut toujours dire il y a 20% ou 25% de gens qui ont des antécédents judiciaires. Si vous ne savez pas si c'est beaucoup ou peu, vous n'en faites pas grand-chose finalement. Hein. Tout pesé est global, comme disait un grand historien, Pierre Chenu. Alors, plus significatif, l'âge. Et là, il est clair qu'il démontre que les mutins sont particulièrement jeunes. Hein, donc là, l'image du père de famille, on l'évoquait ce matin, le père de famille qui refuse, veut revenir, etc. Il y en a, bien entendu, mais significativement, les jeunes sont beaucoup plus nombreux. Au niveau sociologique, au niveau professionnel, ce qu'il tend à montrer, c'est que les mutins sont significativement représentés, alors j'ai oublié l'espace, je dis quand même deux mots parce que ça m'intéresse comme historien de Paris, ces mutins sont très fortement parisiens. 27% dans des régiments qui ne sont pas parisiens d'origine sont parisiens, ce qui est un taux effectivement extrêmement élevé. Enfin, les professions, très fort niveau de professions qualifiées ou demi-qualifiées, notamment les employés, donc là c'est quelque chose que d'ailleurs Denis Roland avait montré au niveau des exécutions, très grand nombre d'employés de commerce, de bureaux, de garçons de café, etc., large surreprésentation, alors que les professions les moins qualifiés de la manutention, de la domesticité, si elles sont très nombreuses dans les déserteurs individuels, dans la délinquance, les pillages, etc., sont peu nombreuses dans les mutins tels que André Love les caractérise. Donc, un profil particulier, moins celui qu'on avait indiqué habituellement, que ces jeunes combattants parisiens urbains, bien sûr il y a des paysans, hein, mais en pourcentage significativement moins nombreux, sous réserve d'une étude plus approfondie que ceux qu'on pourrait attendre. Cette image, ce travail qu'il faudrait poursuivre, hein, nous indique bien qu'effectivement toute étude de ces mouvements sociaux exige que nous sortions de l'histoire photographie pour passer à l'histoire cinéma, c'est-à-dire à une histoire des itinéraires qui rencontrent la guerre. Voilà.